on a échangé ensemble. Donc, il apportera la semaine prochaine. Voilà. Du coup, j'ai choisi une prédication que j'ai déjà prêchée. Enfin, plutôt, j'ai une méditation que j'ai déjà apportée dans cette église. Qui est aussi... c'est toujours bien de réentendre le message. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas non plus entendu. Mais avant de commencer ce message, j'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, nous savons que ce n'est pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, avec le langage qu'on peut apprendre ta sagesse. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour recevoir ta grâce. Je te prie de m'inspirer par ton esprit et aussi d'ouvrir les cœurs de tous ces fidèles qui veulent recevoir ce que tu veux leur donner. Nous sommes, oui, prêts, moi y compris, à recevoir de toi, Seigneur. Seigneur, parle-nous. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est dans Marc chapitre 1, versets 29 à 34, sur la belle-mère de Pierre. Voilà, sur la belle-mère de Pierre. Avant de lire ce passage, j'aimerais vous dire un peu le contexte. Donc avant ce passage, Jésus, donc après l'appel des quatre disciples, c'est-à-dire Simon, ensuite André, le frère de Simon, et Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, sont donc invités à devenir disciples de Jésus. Après cet appel des quatre disciples, ils entrent à Capernaüm au jour de sabbat en compagnie de tous ses disciples qui le suivaient. Pendant le jour de sabbat, les hommes juifs se réunissaient pour écouter un enseignement basé sur l'écriture dans le Sanhédrin, ce qui était une habitude. Donc les gens avaient l'habitude d'entendre un enseignement de la part du rabbin. Mais comme ce rabbin n'avait pas une fonction permanente, il était coutume que le responsable de la synagogue demande à un enseignant de passage de prendre la parole dans la ville, en tout cas dans le Sanhédrin. Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit Paul, les apôtres ou Jésus, a souvent prêché, parlé dans les synagogues, parce qu'il était de coutume, en tout cas, qu'un enseignant passager puisse apporter un enseignement. Bref, à peine arrivé, Jésus occupe le centre de la scène et il s'impose devant une assemblée qui ne semble être là que pour l'écouter. L'évangile de Marc ne nous enseigne pas, ne nous donne pas le contenu de son enseignement, mais on en connaît la qualité de son enseignement par la réaction de l'auditoire. Au verset 22, il est dit « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. » L'auditoire est sidéré, car cet enseignement n'avait rien à voir avec celui des scribes qu'ils avaient déjà entendu parler. Et ensuite, il apparaît un autre événement dans la synagogue. Il y avait un homme possédé d'un esprit impur. Celui-ci, en voyant Jésus, il lui dit « Mais je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Il divulgue le secret de Jésus, ou plutôt sa vraie identité. La réaction de Jésus est un exorcisme en bonne et due forme. Il donne au démon l'ordre de se taire et de quitter sa victime. Aussitôt dit, aussitôt fait, verset 27, « Et tous furent abasourdis de sorte qu'ils s'interrogeaient, disant, « Qu'est-ce là ? Un enseignement nouveau d'autorité ?» Et ensuite, sa renommée se répandit aussitôt de tous côtés en toute la région d'alentour de Galilée. C'est dans ce contexte qu'on arrive au passage d'aujourd'hui. J'aimerais vous lire donc les cinq versets. Donc, verset 29, En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Jusqu'au verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Voilà jusqu'ici notre lecture. À la sortie du synagogue, ils vont tous à la maison de Simon et d'André, c'est-à-dire chez Pierre, l'apôtre Pierre. J'ignore pourquoi ils sont allés chez Pierre. Est-ce que c'est Jésus qui a voulu y aller? Ou est-ce que c'est Pierre qui a pris l'initiative de l'inviter, sachant la gastronomie de sa belle-mère? En général, les belles-mères cuisinent bien, enfin, je ne sais pas. Oh, il y a des exceptions. En tout cas, en ce qui me concerne, elles cuisinent très bien. Bref, quoi qu'il en soit, dès leur arrivée, on apprend que la belle-mère est malade. La belle-mère qui fait tellement bien la cuisine. Pourtant, Pierre ne dit rien et ne demande rien à Jésus. Au contraire, ce sont les autres personnes qui informent à Jésus la maladie de sa belle-mère. Ce sont eux qui sollicitent un geste de sa part. Jésus décide donc d'intervenir et il la fait lever de son lit. Apparemment, dans le moindre effort, pas de parole, mais juste un simple geste, c'est-à-dire en saisissant la main de la femme. Et voilà un peu le résumé de l'histoire. Ce matin, j'aimerais vous inviter à voir sur les conséquences de la venue de Jésus chez Pierre et puis chez la belle-mère de Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, lorsque Jésus arrive dans la maison, on voit qu'il y a un problème. Dans la vie, comme je vous avais déjà dit pendant la présidence, il y a toujours des problèmes dans la vie. Chaque famille a ses sujets de prière dont on doit faire face. Si on regarde la Bible, c'est pareil aussi. Les plus grands hommes de Dieu ont connu des épreuves, des tribulations. Là, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous sommes épargnés par des épreuves. Au contraire, il y a plus d'épreuves parfois à cause de notre foi. En tout cas, il y a deux sortes d'épreuves. Dieu nous met à des épreuves car nous avons mérité ses conséquences. Et on peut dire que c'est un châtiment pédagogique de sa part pour que nous nous détournions de nos péchés, pour que nous marchions selon son plan. Et puis, il y a des épreuves que nous ne comprenons pas. Les chrétiens subissent des tribulations sans raison précise. Face à des problèmes, comme nous venons de voir ce matin, on peut se demander « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi autant de violence, de haine, d'atrocité, de terrorisme? Pourquoi ?» Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et puis même après la question qu'on se pose, on se dit « Mais... » Et puis on se met en colère face à tous ces haine qui existe dans le monde et aussi des épreuves. Quelques raisons pour lesquelles Dieu nous éprouve sont dites, enfin, j'aimerais vous exposer. On va essayer de voir quelques points. Tout d'abord, j'aimerais vous lire dans Deutéronome 8, 2. Il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier. » Afin de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la longue marche que le peuple de Dieu a fait pendant ces 40 années à travers le désert était pour que son peuple s'humilie davantage, pour savoir s'il garderait ou non ses commandements. Oui, il faut que nous soyons humbles parce que nous avons été... Pourquoi nous devons être humbles? Tout simplement parce que Dieu est notre Sauveur, parce qu'il nous a sauvés par sa grâce, alors que nous n'avons pas mérité. Dieu nous a pris comme ses enfants, et tout cela, rien que cette vérité, nous permet de le remercier, comme je vous avais déjà dit ce matin, et aussi de nous humilier, parce que nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Pourquoi les épreuves aussi? Tout simplement parce que dans Exode 20:20, il est dit, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte, avoir la crainte de Dieu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » La crainte de Dieu, afin qu'on ne pêche point. Il nous met à l'épreuve pour que nous ne péchions plus. C'est parce que nous étions dans le péché que Dieu, à travers les épreuves, il veut que nous nous détournions de cela, du mauvais chemin. Et donc, par amour, Dieu agit de cette façon. Si nous sommes dans le péché, avant de subir les conséquences du péché, il vaut mieux revenir au plus, n'est-ce pas? Et puis, encore une autre raison, tout simplement pour connaître si nous sommes vraiment des enfants obéissants à Dieu. Souvenez-vous, l'histoire d'Abraham avec Isaac, lorsque Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de l'offrir, son propre fils, en holocauste, sur la montagne de Moria, il était éprouvé, triste. En tout cas, il était vraiment attristé par cette demande. Mais il avait dans son propre cœur que Dieu allait faire quelque chose. Il avait une grande confiance et de foi, et aussi d'obéissance. Et il a agi. Ainsi, il a pu, enfin, à travers cet événement, cette histoire, on peut relater ici l'obéissance et la foi d'Abraham. Dieu voulait tester sa foi de même. Il peut aussi agir pour voir si nous avons vraiment la vraie foi en lui. D'autres raisons pour qu'il y ait des épreuves, pour produire la patience, d'après Jacques 1. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Malgré les douleurs que les épreuves peuvent nous infliger, Dieu nous recommande de nous réjouir de ces tribulations parce que l'épreuve de notre foi produit la patience et puis la victoire à l'épreuve. Bref, il y a encore d'autres points que je n'ai pas relevés parce que ça pourrait être encore indéterminé comme liste d'épreuves. Mais nous avons vu quelques points pour connaître les raisons de nos problèmes, de nos épreuves. Et face à ces problèmes, qu'est-ce que nous faisons lorsque Jésus entre dans la maison? On voit une épreuve. On voit une épreuve. Et dans 1 Corinthiens 10:13, il est dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prépare une sortie de secours dans toutes ces tribulations. Ça veut dire que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si nous sommes ses enfants, un jour viendra où il n'y aura... Nous savons qu'un jour viendra où il n'y aura ni deuil, ni plainte, ni souffrance, ni larmes. Et avec cette espérance, nous pouvons vaincre les problèmes. Lorsque nous revoyons un petit peu l'épisode avec la belle-mère de Pierre, devant face à ce problème d'épreuve, de maladie, Pierre n'a rien dit. Ce sont les autres qui ont informé de cette maladie. Au verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. En grec, littéralement, on peut traduire de cette façon, il lui parle d'elle. Ce « il » est écrit au pluriel, troisième personne au pluriel. Et donc, ça veut dire que quelques personnes lui ont informé de la maladie de la belle-mère. Je vous rappelle que, juste avant cet événement, ses disciples ont vu Jésus guérir un malade, ou plutôt un possédé. Donc, normalement, la première réaction que Pierre, son disciple, aurait dû avoir, était de demander à Jésus de guérir sa belle-mère, mais Pierre n'a rien dit. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, comment? C'est Claude? C'est Claude qui a réagi? Bon, ce n'est pas la peine. Pourtant, il ne dit rien. Ce sont les autres qui l'ont informé de sa maladie à Jésus. Et puis, Jésus l'a guéri. Et là, sur ce point, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur cette question d'intercession. On voit ici l'importance du rôle des intercesseurs. Prier pour les autres est vraiment important et même nécessaire. Dans Éphésiens 6, il est dit que « Priez pour tous les saints, pour tous les frères et sœurs. » Dans Jacques 5, il est dit aussi « Priez les uns pour les autres. » Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le verbe « prier » est écrit à l'impératif. C'est-à-dire, c'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit peut-être faire si on a le temps ou si, par hasard, quelqu'un me demande de prier pour lui. Non, c'est un ordre qu'on doit respecter. C'est un commandement de Dieu. Pas prier juste pour moi-même. Oh, bien sûr, la première chose, c'est d'abord savoir prier pour soi-même. Après, quand on a pris l'habitude de prier pour soi-même, on prend la maturité et on arrive à prier les uns pour les autres. Et c'est ce que Dieu, à travers la parole de Dieu, nous recommande de faire, c'est-à-dire si c'est possible de prier les uns pour les autres. D'ailleurs, dans Luc 6, il va bien au-delà. Il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Jésus va encore plus loin. Il faut prier, intercéder, non seulement pour nos frères et sœurs, mais aussi pour les non-croyants. Il faut prier pour tout le monde. C'est ça la volonté de Dieu. Ne soyons pas des égoïstes qui prient seulement pour soi-même. C'est déjà bien de savoir prier pour soi-même, mais il faut aller encore plus loin. Soyons des intercesseurs que Dieu recherche. Parfois, on se dit, oui, je prierai demain, après-demain. Et ce jour, ce demain viendra jamais, si on repousse toujours à demain. Et peut-être que le Seigneur reviendra avant aussi. En tout cas, sachez que Dieu cherche des intercesseurs et c'est un ordre de Dieu, écrit à l'impératif. Et puis, bien sûr, ce n'est pas parce que nous avons prié, intercédé, que nos prières seront exaucées. Toutes nos prières ne sont pas exaucées. C'est bien, c'est important de prier les uns pour les autres. C'est bien de prier pour les sujets de chacun. Mais nos prières, malheureusement, ne sont pas toujours exaucées. Parce que Dieu agit différemment. Parfois, Dieu dit, « Ok, c'est bien, ta prière est selon ma volonté et maintenant il est temps de t'exaucer. Donc parfois, vous pouvez prier aujourd'hui et que vous soyez exaucé le demain. Je vous avais déjà raconté mon histoire avec ma voiture. Quand je voulais changer ma voiture, j'ai prié. Et puis le lendemain, mon copain me téléphone pour dire « Est-ce que tu veux ma voiture ?» Et puis parfois, on peut prier pendant des années et des années, même si c'est on prie selon sa volonté. Parce que mon ami qui a prié pendant plus de 20 ans pour la conversion de sa maman, ben, c'est aussi selon sa volonté de Dieu. Elle a prié tous les jours pour la conversion de sa maman. Mais elle s'est convertie seulement vers la fin de sa vie. Enfin, Dieu a exaucé. Mais Dieu n'exauce pas tout de suite. Comme si on claque du doigt, Dieu exauce. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, Dieu refuse même de nous écouter parce que cette prière n'est pas du tout selon sa volonté. Que ça ne correspond pas en tout cas. Voilà. Quand quelque chose qui n'est pas bon pour nous, Dieu ne nous accorde pas. Donc, si Dieu n'exauce pas notre prière, il serait utile de réfléchir, mais pourquoi Dieu ne m'écoute pas, ne m'exauce pas? Si vous êtes convaincu que c'est vraiment selon sa volonté de Dieu, vous pouvez continuer. Mais en continuant l'intercession, si vous pensez que votre prière n'est pas juste, dans ce cas-là, il faut changer le sujet. En tout cas, Dieu dit non. Comme si, voilà, un enfant voudrait avoir un couteau, hein, les parents ne voudraient jamais donner de couteau, n'est-ce pas? Et puis, parfois, Dieu nous dit aussi, attends. Et en son temps, il réalise sa volonté. Je pense que beaucoup d'entre vous a déjà vécu ce genre de choses. Alors pourquoi nous devons donc intercéder? Je vous disais que c'était un ordre de Dieu. Aussi, je dirais encore une deuxième chose, parce que nous avons reçu tellement de grâce de la part de Dieu, c'est normal de pouvoir partager à travers les intercessions, à travers aussi les témoignages. En tout cas, lorsque Dieu entre dans notre maison, comme il est entré dans la maison de Pierre, il a résolu des problèmes, il a chassé les démons, il a guéri. Dans cette guérison de la part de Dieu, en étant intercesseur, nous pouvons être des participants à son œuvre avec la prière. Nous devons nous aider mutuellement, en tout cas dans la prière, car l'unité donne plus de force. D'après Ecclésiaste 4, il est dit « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Donc si un sujet est peut-être important, mettez-vous d'accord avec plusieurs frères et sœurs pour prier ensemble pour que Dieu exauce à cette prière. L'unité fait la force. Intercédons-nous les uns pour les autres. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après la guérison? À la fin du verset, il est écrit « La fièvre la quitte et elle se mit à les servir ». Après la guérison, qu'est-ce que la belle-mère fait? Elle sert Jésus et les autres. C'est vrai que lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, on ne peut pas ne rien faire. N'est-ce pas, Nadine? Lorsque nous recevons beaucoup de grâce, beaucoup de guérison, on se sent presque, enfin, pas obligé, mais avec joie, à servir les autres. Vous savez, le danger pour les serviteurs de Dieu ou même pour vous qui servez Dieu à votre manière, Et je parle aussi aux responsables de l'Église. Le danger pour nous tous, c'est que nous servions Dieu sans avoir reçu la grâce de Dieu, sans avoir expérimenté. Ou même, peut-être vous avez expérimenté cette grâce, mais que vous avez tellement donné que vous êtes maintenant dans le vide. Et si vous ne puisez pas votre force en recevant quotidiennement cette grâce, c'est très dangereux de servir Dieu de cette manière. Le deuxième danger serait que lorsque, une fois nous avons reçu cette grâce de Dieu, un témoignage, une expérience, un exaucement de prière, je ne sais pas, encore d'autres, qu'on garde pour soi-même. Et ne partage pas. Si on ne partage pas cette grâce reçue, ça devient aussi un danger, comme la mer morte. Vous savez, la mer morte qui entasse de l'eau, et puis elle fait que s'évaporer son eau, et ainsi la densité du sel augmente et la vie devient impossible. De même, si on entasse toute cette grâce de Dieu pour soi-même, sans partager avec les autres, c'est pas bien. Il faut partager, il faut qu'il y ait une fluidité. La belle-mère, après avoir rencontré Jésus, après avoir été guérie complètement, elle ne s'est pas contentée d'un simple remerciement à Jésus. Elle a commencé à servir Jésus, mais aussi les autres. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La maison est devenue un endroit béni pour les autres. En effet, par la suite, Jésus a guéri dans cette maison beaucoup de malades. Je vous relis versets 32, 33, 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Voilà, ici, on peut voir que nous pouvons être une canal de bénédiction pour les autres. À partir de cette guérison, à partir de cette expérience vécue chez Pierre, beaucoup ont entendu parler de cette guérison, sont venus dans cette maison. Et ils ont été bénis dans cette maison. Ça peut être un lieu de bénédiction. Notre maison, notre personne peut être aussi une source de bénédiction pour les autres. Parce que, en assumant notre rôle de lumière et de sel, ainsi nous pouvons être une bénédiction pour nos proches, pour nos parents, pour nos amis, pour notre famille. Et ainsi de suite, eux aussi, ils peuvent recevoir de la même manière cette grâce immense que Dieu veut nous accorder à nous tous. Et c'est ce qui s'est passé chez la belle-mère de Pierre. Dieu a visité sa maison et plusieurs qui souffraient de diverses maladies. J'aimerais conclure. Dans la maison de la belle-mère, ce n'était pas Mohamed qui était venu. Ce n'était pas ni un philosophe d'Orient comme Bouddha, ni un voyant, ni un astrologue qui était venu. Mais c'était Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui est mort pour nous sur la croix afin d'expier nos péchés, afin de nous accorder le salut. C'est Jésus qui a éclairé cette maison, qui a accordé une pleine grâce à toute la famille. Que nous puissions recevoir ce Jésus dans notre cœur, dans le quotidien, dans notre maison, dans nos activités, pendant nos vacances. Il y a certains qui sont en vacances. Que vraiment ce Jésus éblouit notre personne aussi, pour que nous puissions aussi assumer comme la belle-mère de Pierre, servir les autres. En étant aussi. Et puis, nous avons vu aussi des intercesseurs. Soyons aussi des intercesseurs les uns pour les autres. Si nous apprenons un frère, une sœur qui a quelques soucis ou quelques projets, participons à ces projets, à ces résolutions de problèmes pour déposer tout cela à la croix, au pied du Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes maintenant et chaque jour. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons chanté que nous avions besoin de ton esprit. Révèle-toi en nous. Et si nous sommes dans le mauvais chemin, dévoile-nous, Seigneur, ce que nous devons faire. Et si nous sommes dans le péché, pardonne nos péchés pour nous conduire dans la lumière. Et une fois reçu cette grâce immense, imméritée, nous ne voulons pas nous arrêter ici, présent. Mais Seigneur, je te demande de nous apprendre à te servir davantage, à servir les autres aussi, avec la grâce que tu nous donnes. Apprends-nous à t'aimer davantage. Apprends-nous à te remettre aussi nos fardeaux en étant des intercesseurs, en étant des hommes, des femmes de prière. Apprends-nous à t'accueillir comme a fait la belle-mère de Pierre dans notre maison, dans nos cœurs, pour jouir tous ces privilèges, toutes ces bénédictions. Merci pour ta présence avec nous ce matin. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. C'est le temps des annonces.